Nous sommes arrivés sans avoir fait la moindre rencontre, dit Chesnel. Madame la Duchesse, vous devez avoir d'autant plus d'empire ici que le père de Madame Camusot est un huissier du cabinet du roi, nommé Tyrion.
Et le roi n'y a pas songé. Il ne pense à rien, s'écria-t-elle.
Tyrion nous a introduits, le prince de Cadignan, monsieur de Vandenesse et moi. Nous sommes les maîtres séants. Combinez bien tout avec le mari pendant que je vais parler à la femme.
La femme de chambre, qui lavait, débarbouillait, habillait les deux enfants, introduisit les deux étrangers dans la petite salle sans feu.
« Allez porter cette carte à votre maîtresse, » dit la duchesse à l'oreille de la femme de chambre, « et ne la laissez lire qu'à elle. Si vous êtes discrète, on vous récompensera, ma petite. »
La femme de chambre demeura comme frappée de la foudre en entendant cette voix de femme et voyant cette délicieuse figure de jeune homme.
« Éveillez monsieur Camusot, » lui dit Chesnel, « et dites que je l'attends pour une affaire importante. »
La femme de chambre monta. Quelques instants après, Madame Camusot s'élança en peignoir à travers les escaliers et introduisit le bel étranger après avoir poussé Camusot en chemise dans son cabinet avec tous ses vêtements en lui ordonnant de s'habiller et de l'y attendre. Ce coup de théâtre avait été produit par la carte où était gravée « Madame la Duchesse de Maufrigneuse ». La fille de l'huissier du cabinet du roi avait tout compris.
« Eh bien, monsieur Chesnel, ne dirait-on pas que le tonnerre vient de tomber ici ?» s'écria la femme de chambre à voix basse. « Monsieur s'habille dans son cabinet, vous pouvez y monter. »«
Silence sur tout ceci, » répondit le notaire. Chesnel, en se sentant appuyé par une grande dame qui avait l'assentiment verbal du roi, aux mesures à prendre pour sauver le comte d'Esgrignon, prit un air d'autorité qui le servit auprès de Camusot beaucoup mieux que l'air humble avec lequel il l'aurait entretenu s'il eût été seul et sans secours.
« Monsieur, lui dit-il, mes paroles hier au soir ont pu vous étonner, mais elles sont sérieuses. La maison d'Esgrignon compte sur vous pour bien instruire une affaire d'où elle doit sortir sans tâche. »«
Monsieur, répondit le juge, je ne relèverai point ce qu'il y a de blessant pour moi et d'attentatoire à la justice dans vos paroles, car jusqu'à un certain point votre position près de la maison d'Esgrignon l'excuse. Mais, monsieur, pardonnez-moi de vous interrompre, dit Chesnel. Je viens vous dire des choses que vos supérieurs pensent et n'osent pas avouer, mais que les gens d'esprit devinent, et vous êtes un homme d'esprit. À supposer que le jeune homme eût agi imprudemment, croyez-vous que le roi, que la cour, que le ministère fussent flattés de voir un nom comme celui des d'Esgrignon traîné à la cour d'assises ? Est-il dans l'intérêt non seulement du royaume, mais du pays, que les maisons historiques tombent ? L'égalité, aujourd'hui le grand mot de l'opposition, ne trouve-t-elle pas une garantie dans l'existence d'une aussi haute aristocratie consacrée par le temps ? Eh bien, non seulement il n'y a pas eu la moindre imprudence, mais nous sommes des innocents tombés dans un piège. Je suis curieux de savoir comment, dit le juge.
Monsieur, reprit Chesnel, pendant 2 ans, le sieur du Croisier a constamment laissé tirer sur lui pour de fortes sommes par monsieur le comte d'Esgrignon. Nous produirons des traites pour plus de 100 000 écus. Constamment acquitté par lui, et dont les sommes ont été remises par moi. Saisissez bien ceci, soit avant, soit après l'échéance.
Monsieur le comte d'Esgrignon est en mesure de présenter un reçu de la somme tirée par lui, antérieure à l'effet argué de faux. Ne reconnaîtrez-vous pas alors dans la plainte une œuvre de haine et de parti ? N'est-ce pas une odieuse calomnie que cette accusation portée par les adversaires les plus dangereux du trône et de l'autel contre l'héritier d'une vieille famille ? Il n'y a pas eu plus de faux dans cette affaire qu'il ne s'en est fait dans mon étude. Mandée par devers vous, Madame du Croisier, laquelle ignore encore la plainte en faux, elle vous déclarera que je lui ai porté les fonds et qu'elle les a gardés pour les remettre à son mari absent, qui ne les lui réclame pas. Interrogez du Croisier à ce sujet, il vous dira qu'il ignore ma remise à Madame du Croisier.
« Monsieur, répondit le juge d'instruction, vous pouvez émettre de pareilles assertions dans le salon de monsieur d'Esgrignon ou chez des gens qui ne connaissent pas les affaires, on y ajoutera foi. Mais un juge d'instruction, à moins d'être imbécile, ne croira pas qu'une femme aussi soumise à son mari que l'est madame du Croisier conserve en ce moment dans son secrétaire 100 000 écus sans en rien dire à son mari, ni qu'un vieux notaire n'ait pas instruit monsieur du Croisier de cette remise à son retour en ville. »
« Le vieux notaire était allé à Paris, monsieur, pour arrêter le cours des dissipations du jeune homme. »«
Je n'ai pas encore interrogé le comte d'Esgrignon, reprit le juge. Ses réponses éclaireront ma religion. »«
Il est au secret ? » demanda le notaire.
« Oui, répondit le juge. »«
Monsieur, s'écria Chesnel qui vit le danger, l'instruction peut être conduite pour ou contre nous, mais vous choisirez ou de constater, d'après la déposition de madame du Croisier, la remise des valeurs antérieurement à l'effet, ou d'interroger un pauvre jeune homme... honoré, inculpé, qui, dans son trouble, peut ne se souvenir de rien et se compromettre. vous chercherez le plus croyable, ou de l'oubli d'une femme ignorante en affaires, ou d'un faux commis par un d'Esgrignon.
Il ne s'agit pas de tout cela, reprit le juge. Il s'agit de savoir si monsieur le comte d'Esgrignon a converti le bas d'une lettre que lui adressait du Croisier en une lettre de change.
Eh, il le pouvait, s'écria tout à coup madame Camusot qui entra vivement, suivie du bel inconnu.
Monsieur Chesnel avait remis les fonds. Elle se pencha vers son mari. Tu seras juge suppléant à Paris à la première vacance. Tu sers le roi lui-même dans cette affaire. J'en ai la certitude. On ne t'oubliera pas, lui dit-elle à l'oreille.
Tu vois dans ce jeune homme la duchesse de Maufrigneuse. Tâche de ne jamais dire que tu l'as vu, et fais tout pour le jeune comte, hardiment.
Messieurs, dit le juge, quand l'instruction serait conduite dans le sens favorable à l'innocence du jeune comte, puis-je répondre du jugement à intervenir? Monsieur Chesnel et toi, ma bonne, vous connaissez les dispositions de monsieur le président.
Ta ta ta, dit madame Camusot, va voir toi-même ce matin monsieur Michu, et apprends-lui l'arrestation du jeune comte. Vous serez déjà deux contre deux. J'en réponds. Michu est de Paris, lui, et tu connais son dévouement pour la noblesse. Bon chien chasse de race.
En ce moment, mademoiselle Cadeau fit entendre sa voix à la porte, en disant qu'elle apportait une lettre pressée. Le juge sortit et rentra en lisant ces mots.
Monsieur le vice-président du tribunal prie monsieur Camusot de siéger à l'audience de ce jour et des jours suivants pour que le tribunal soit au complet pendant l'absence de monsieur le président. Il lui fait ses compliments.
Plus d'instruction de l'affaire d'Esgrignon, s'écria madame Camusot. Ne te l'avais-je pas dit, mon ami, qu'il te jouerait quelque mauvais tour? Le président est allé te calomnier auprès du procureur général et du président de la cour. Avant que tu puisses instruire l'affaire, tu seras changé. Est-ce clair?
Vous resterez, monsieur, dit la duchesse. Le procureur du roi arrivera, je l'espère, à temps.
Quand le procureur du roi viendra, dit avec feu la petite madame Camusot, il doit trouver tout fini.
« Oui, mon cher, oui, » dit-elle en regardant son mari stupéfait.
« Ah, vieil hypocrite de président, tu joues au plus fin avec nous, tu t'en souviendras. Tu veux nous servir un plat de ton métier, tu en auras deux, apprêtés par la main de ta servante, Cécile Amélie Thirion. Pauvre bonhomme blondet, il est heureux pour lui que le président soit en voyage pour nous faire destituer. Son grand dadais de fils épousera mademoiselle Blandureau.
Je vais aller retourner les semis au père Blondet. Toi, Camusot, va chez monsieur Michu pendant que madame la duchesse et moi nous irons trouver le vieux Blondet. Attends-toi à entendre dire par toute la ville que je me suis promenée ce matin avec un amant.
Madame Camusot donna le bras à la duchesse et l'emmena par les endroits déserts de la ville pour arriver sans mauvaise rencontre à la porte du vieux juge. Chesnel alla pendant ce temps conférer avec le jeune comte à la prison, où Camusot le fit introduire en secret. Les cuisinières, les domestiques et autres gens levés de bonne heure en province, qui virent madame Camusot et la duchesse dans des chemins détournés, prirent le jeune homme pour un amant venu de Paris. Comme Cécile Amélie l'avait prévu, le soir la nouvelle de ses déportements circulait dans la ville et y occasionnait plus d'une médisance. Madame Camusot et son amant prétendu trouvèrent le vieux Blondet dans sa serre. Il salua la femme de son collègue et son compagnon en jetant sur ce charmant jeune homme un regard inquiet et scrutateur.
« J'ai l'honneur de vous présenter un des cousins de mon mari, » dit-elle à monsieur Blondet en lui montrant la duchesse. « Un des horticulteurs les plus distingués de Paris, qui revient de Bretagne et ne peut passer que cette journée avec nous. » Monsieur a entendu parler de vos fleurs et de vos arbustes et j'ai pris la liberté de venir de grand matin.
« Ah, monsieur est horticulteur, » dit le vieux juge. La duchesse s'inclina sans parler.
« Voici, » dit le juge, « mon cafier et mon arbre à thé. »«
Pourquoi donc, » dit madame Camusot, « monsieur le président est-il parti? Je gage que son absence concerne monsieur Camusot. »«
Précisément. Voici, monsieur, le cactus le plus original qui existe, » dit-il en montrant dans un pot une plante qui avait l'air d'un rotin couvert de lèpre. « Il vient de la Nouvelle-Hollande. Vous êtes bien jeune, monsieur, pour être horticulteur. »«
Quittez vos fleurs, cher monsieur Blondet, » dit madame Camusot. « Il s'agit de vous, de vos espérances, du mariage de votre fils avec mademoiselle Blandureau. Vous êtes la dupe du président. »«
Bah !» dit le juge d'un air incrédule. « Oui, » reprit-elle, « si vous cultiviez un peu plus le monde et un peu moins vos fleurs, vous sauriez que la dot et les espérances que vous avez plantées, arrosées, binées, sarclées, sont sur le point d'être cueillies par des mains rusées.
« Madame !
Ah ! Personne en ville n'aura le courage de rompre en visière au président en vous avertissant. Moi, qui ne suis pas de la ville et qui, grâce à ce brave jeune homme, irai bientôt à Paris, je vous apprends que le successeur de Chesnel a formellement demandé la main de Claire Blandureau pour le petit du Ronceret, à qui ses pères et mères donnent 50 000 écus.
Quant à Félicien, il promet de se faire recevoir avocat pour être nommé juge. » Le vieux juge laissa tomber le pot qu'il avait à la main pour le montrer à la duchesse.
« Ah, mon cactus! Ah, mon fils! Mademoiselle Blanduro! Tiens, la fleur du cactus est cassée !»
Non, tout peut s'arranger, lui dit Madame Camusot en riant. Si vous voulez voir votre fils juge dans un mois d'ici, nous allons vous dire comment il faut vous y prendre.
Monsieur, passez là, vous verrez mes pélargoniums, un spectacle magique à la floraison.
Pourquoi, dit-il à Madame Camusot, me parlez-vous de ces affaires devant votre cousin?
Tout dépend de lui, riposta Madame Camusot. La nomination de votre fils est à jamais perdue si vous dites un mot de ce jeune homme.
Bah, ce jeune homme est une fleur.
C'est la duchesse de Maufrigneuse, envoyée par le roi pour sauver le jeune d'Esgrignon, arrêtée hier par la suite d'une plainte en faux portée par du Croisier.
Madame la duchesse a la parole du garde des Sceaux. Il ratifiera les promesses qu'elle nous fera.
« Mon cactus est sauvé, dit le juge qui examinait sa plante précieuse.
Allez, j'écoute. Consultez-vous avec Camusot et Michu pour étouffer l'affaire au plus tôt, et votre fils sera nommé. Sa nomination arrivera alors assez à temps pour vous permettre de déjouer les intrigues des Duronceret auprès des Blanduro. Votre fils sera mieux que juge suppléant. Il aura la succession de M. Camusot dans l'année. Le procureur du roi arrive aujourd'hui. M. Sauvager sera sans doute forcé de donner sa démission à cause de sa conduite dans cette affaire. Mon mari vous montrera des pièces au palais qui établissent l'innocence du comte et qui prouvent que le faux est un guet-apens tendu par du Croisier.
Le vieux juge entra dans le cirque olympique de ses 6000 pélargoniums et y salua la duchesse.
« Monsieur, dit-il, si ce que vous voulez est légal, cela pourra se faire. »«
Monsieur, répondit la duchesse, remettez votre démission demain à Monsieur Chesnel. Je vous promets de vous faire envoyer dans la semaine la nomination de votre fils. Mais ne la donnez qu'après avoir entendu Monsieur le procureur du roi vous confirmer mes paroles. Vous vous comprenez mieux entre vous autres gens de justice. » Seulement, faites-lui savoir que la duchesse de Maufrigneuse vous a engagé sa parole. Silence sur mon voyage ici, dit-elle.
Le vieux juge lui baisa la main et se mit à cueillir sans pitié les plus belles fleurs qu'il lui offrit.
Y pensez-vous? Donnez-les à madame, lui dit madame la duchesse. Il n'est pas naturel de voir des fleurs à un homme qui donne le bras à une jolie femme.
Avant d'aller au palais, lui dit madame Camusot, allez vous informer chez le successeur de Chesnel des propositions faites par lui au nom de monsieur et de madame du Ronceret.
Le vieux juge, ébahi de la duplicité du président, resta planté sur ses jambes, à sa grille, en regardant les deux femmes qui se sauvèrent par les chemins détournés. Il voyait crouler l'édifice si péniblement bâti durant 10 années pour son enfant chéri. Était-ce possible ? Il soupçonna quelques ruses et courut chez le successeur de Chesnel. À 9h30, avant l'audience, le vice-président Blondet, le juge Camusot et Michu se trouvèrent avec une remarquable exactitude dans la chambre du conseil, dont la porte fut fermée avec soin par le vieux juge en voyant entrer Camusot et Michu qui vinrent ensemble.
« Eh bien, monsieur le vice-président, dit Michu, monsieur Sauvager a requis un mandat contre un comte d'Esgrignon sans consulter le procureur du roi pour servir la passion d'un du Croisier, un ennemi du gouvernement du roi. C'est un vrai sans-dessus-dessous. Le président de son côté part pour arrêter l'instruction et nous ne savons rien de ce procès. Voulait-on par hasard nous forcer la main ?»«
Voici le premier mot que j'entends sur cette affaire, dit le vieux juge furieux de la démarche faite par le président chez les Blanduro. »
Le successeur de Chesnel, l'homme des Duronceret, venait d'être victime d'une ruse inventée par le vieux juge pour savoir la vérité. Il avait avoué le secret.
« Heureusement que nous vous en parlons, mon cher maître, dit Camusot à Blondet. Autrement, vous auriez pu renoncer à asseoir jamais votre fils sur les fleurs de lys et à le marier à Mademoiselle Blanduro.
Mais il ne s'agit pas de mon fils, ni de son mariage, dit le juge. Il s'agit du jeune comte d'Esgrignon. Est-il ou n'est-il pas coupable ?
« Il paraît, dit Monsieur Michu, que les fonds auraient été remis à Madame du Croisier par Chesnel. On a fait un crime d'une simple irrégularité. Le jeune homme aurait, suivant la plainte, pris un bas de lettre où était la signature de du Croisier pour la convertir en un effet sur les Keller.
Une imprudence, dit Camusot.
« Mais si du Croisier avait encaissé la somme, dit Blondet, pourquoi s'est-il plaint ?
Il ne sait pas encore que la somme a été remise à sa femme, ou il feint de ne pas le savoir, dit Camusot.
« Vengeance de gens de province, dit Michu. »
« Ça m'a pourtant l'air d'être un faux, dit le vieux Blondet. »«
Vous croyez, dit Camusot.
Mais d'abord, en supposant que le jeune comte n'ait pas eu le droit de tirer sur du croisier, il n'y aurait pas imitation de signature. Mais il s'est cru ce droit par l'avis que Chesnel lui a donné d'inversement opéré par Louis Chesnel. « Eh bien, où voyez-vous donc un faux ?» dit le vieux juge. « L'essence du faux en matière civile est de constituer un dommage à autrui. » Ah, il est clair, en tenant la version de Ducroisier pour vraie, que la signature a été détournée de sa destination afin de toucher la somme au mépris d'une défense faite par Ducroisier à ses banquiers, dit Camusot. « Ceci, messieurs, dit Blondet, me paraît une misère, une vétille. Vous aviez la somme, je devais attendre peut-être un titre de vous. Mais moi, comte d'Esgrignon, j'étais dans un besoin urgent. J'ai, allons donc, votre plainte est de la passion, de la vengeance. Pour qu'il y ait faux, le législateur a voulu l'intention de soustraire une somme, de se faire attribuer un profit quelconque auquel on n'aurait pas droit. Il n'y a eu de faux, ni dans les termes de la loi romaine, ni dans l'esprit de la jurisprudence actuelle, toujours en nous tenant dans le civil, car il ne s'agit pas ici de faux en écriture, publique ou authentique. En matière privée, le faux entraîne une intention de voler, mais ici, où est le vol? Dans quel temps vivons-nous, messieurs? Le président nous quitte pour faire manquer une instruction qui devrait être finie. Je ne connais monsieur le président que d'aujourd'hui, mais je lui payerai l'arriéré de mon erreur. Il minutera désormais ses jugements lui-même. Vous devez mettre à ceci la plus grande célérité, monsieur Camusot. Oui. Mon avis, dit Michu, est, au lieu d'une mise en liberté sous caution, de tirer de là ce jeune homme immédiatement. Tout dépend des interrogations à poser à Ducroisier et à sa femme. Vous pouvez les mander pendant l'audience, monsieur Camusot, recevoir leur déposition avant 4 heures, faire votre rapport cette nuit, et nous jugerons l'affaire demain avant l'audience. Pendant que les avocats plaideront, nous conviendrons de la marche à suivre, dit Blondet à Camusot. Les 3 juges entrèrent en séance après avoir revêtu leur robe. À midi, Monseigneur et Mademoiselle Armande étaient arrivés à l'hôtel d'Esgrignon, où se trouvaient déjà Chesnel et Monsieur Couturier. Après une conférence assez courte entre le directeur de Madame Ducroisier et le prélat, le prêtre alla sur le champ chez sa pénitente. À 11 heures du matin, Ducroisier reçut un mandat de comparution qui le mandait, entre 1 heure et 2, dans le cabinet du juge d'instruction. Il y vint, en proie à des soupçons légitimes. Le président, incapable de prévoir l'arrivée de la duchesse de Maufrigneuse, celle du procureur du roi, ni la confédération subite des 3 juges, avait oublié de tracer à Ducroisier un plan de conduite au cas où l'instruction commencerait. Ni l'un ni l'autre ne crurent à tant de célérité. Ducroisier s'empressa d'obéir au mandat afin de connaître les dispositions de M. Camusot. Il fut donc obligé de répondre. Le juge lui adressa sommairement les 6 interrogations suivantes. L'effet argué de faux, ne portait-il pas une signature vraie? Avait-il eu, avant cet effet, des affaires avec monsieur le comte d'Esgrignon? Monsieur le comte d'Esgrignon n'avait-il pas tiré sur lui des lettres de change avec ou sans avis? N'avait-il pas écrit une lettre par laquelle il autorisait monsieur d'Esgrignon à toujours faire fond sur lui? Chesnel n'avait-il pas plusieurs fois déjà soldé ses comptes? N'avait-il pas été absent à telle époque? Ces questions furent résolues affirmativement par Ducroisier. Malgré des explications verbeuses, le juge ramenait toujours le banquier à l'alternative d'un oui ou d'un non. Quand les demandes et les réponses furent consignées au procès-verbal, le juge termina par cette foudroyante interrogation. Ducroisier savait-il que l'argent de l'effet argué de faux était déposé chez lui, suivant une déclaration de Chesnel et une lettre d'avis du dit Chesnel au comte d'Esgrignon 5 jours avant la date de l'effet? Cette dernière question épouvanta Ducroisier. Il demanda ce que signifiait un pareil interrogatoire. S'il était lui le coupable et monsieur le comte d'Esgrignon le plaignant? Il fit observer que si les fonds étaient chez lui, il n'eût pas rendu de plainte. « La justice, c'est clair, dit le juge, en le renvoyant, non sans avoir constaté cette dernière observation de Ducroisier. « Mais, monsieur, les fonds sont chez vous, dit le juge. » Chesnel, également cité, comparut pour expliquer l'affaire. La véracité de ses assertions fut corroborée par la déposition de Madame Ducroisier. Le juge avait déjà interrogé le comte d'Esgrignon, qui, soufflé par Chesnel, produisit la première lettre par laquelle Ducroisier lui écrivait de tirer sur lui, sans lui faire l'injure de déposer les fonds d'avance. Puis il déposa une lettre, écrite par Chesnel, par laquelle le notaire le prévenait du versement des 100 000 écus chez M. Ducroisier. Avec de pareils éléments, l'innocence du jeune comte devait triompher devant le tribunal.
Quand Du Croisier revint du palais chez lui, son visage était blanc de colère et sur ses lèvres frissonnait la légère écume d'une rage concentrée. Il trouva sa femme assise dans son salon, au coin de la cheminée, et lui faisant des pantoufles en tapisserie. Elle trembla quand elle leva les yeux sur lui, mais elle avait pris son parti. « Madame, s'écria Du Croisier en balbutiant, quelle déposition avez-vous faite devant le juge? Vous m'avez déshonorée, perdue, trahie. « Je vous ai sauvée, monsieur, répondit-elle. Si vous avez l'honneur de vous allier un jour au Desgrignon, par le mariage de votre nièce avec le jeune comte, vous le devrez à ma conduite d'aujourd'hui. » « Miracle ! L'ânesse de Balaam a parlé, s'écria-t-il. Je ne m'étonnerai plus de rien. Et où sont les 100 000 écus que monsieur Camusot dit être chez moi ?»« Les voici, répondit-elle, en tirant le paquet des billets de banque de dessous le coussin de sa bergère. Je n'ai point commis de péché mortel en déclarant que monsieur Chesnel me les avait remis. » « En mon absence? Vous n'étiez pas là? Vous me le jurez par votre salut éternel ?»« Je le jure, dit-elle d'une voix calme. « Pourquoi ne m'avoir rien dit » demanda-t-il. « J'ai eu tort en ceci, répondit sa femme. « Mais ma faute tourne à votre avantage. Votre nièce sera quelque jour marquise d'Esgrignon, et peut-être serez-vous députée si vous vous conduisez bien dans cette déplorable affaire. Vous êtes allé trop loin, sachez revenir. » Du Croisier se promena dans son salon, en proie à une horrible agitation, et sa femme attendit, dans une agitation égale, le résultat de cette promenade. Enfin Du Croisier sonna. « Je ne recevrai personne ce soir, fermez la grande porte, » dit-il à son valet de chambre. « À tous ceux qui viendront, vous direz que madame et moi, nous sommes à la campagne. Nous partirons aussitôt après le dîner, que vous avancerez d'une demi-heure. » Dans la soirée, tous les salons, les petits marchands, les pauvres, les mendiants, la noblesse, le commerce, toute la ville enfin parlait de la grande nouvelle, l'arrestation du comte d'Esgrignon soupçonné d'avoir commis un faux. Le comte d'Esgrignon irait en cour d'assises, il serait condamné, marqué. La plupart des personnes à qui l'honneur de la maison d'Esgrignon était cher niaient le fait. Quand il fit nuit, Chesnel vint prendre chez madame Camusot le jeune inconnu qu'il conduisit à l'hôtel d'Esgrignon où mademoiselle Armande l'attendait. La pauvre fille mena chez elle la belle Maufrigneuse, à laquelle elle donna son appartement. Monseigneur l'évêque occupait celui de Victurnien. Quand la noble Armande se vit seule avec la duchesse, elle lui jeta le plus déplorable regard. « Vous deviez bien votre secours au pauvre enfant qui s'est perdu pour vous, madame, » dit-elle, « un enfant à qui tout le monde ici se sacrifie. » La duchesse avait déjà jeté son coup d'œil de femme sur la chambre de mademoiselle d'Esgrignon et y avait vu l'image de la vie de cette sublime fille. Vous eussiez dit de la cellule d'une religieuse, à voir cette pièce nue, froide et sans luxe. La duchesse, émue en contemplant le passé, le présent et l'avenir de cette existence, en reconnaissant le contraste inouï qui produisait sa présence, ne put retenir des larmes qui roulèrent sur ses joues et lui servirent de réponse. « Ah, j'ai tort, pardonnez-moi, madame la duchesse, » reprit la chrétienne qui l'emporta sur la tente de Victurnien. « Vous ignoriez notre misère, mon neveu était incapable de vous l'avouer. D'ailleurs, en vous voyant, tout se conçoit, même le crime. » Mademoiselle Armande, sèche et maigre, pâle, mais belle comme une de ces figures effilées et sévères que les peintres allemands ont seuls su faire, eut aussi les yeux mouillés. « Rassurez-vous, cher ange, » dit enfin la duchesse, « il est sauvé. » « Oui, » mais l'honneur, mais son avenir, Chesnel me l'a dit, le roi sait la vérité. Nous songerons à réparer le mal, dit la duchesse. Mademoiselle Armande descendit au salon et trouva le cabinet des antiques au grand complet. Autant pour fêter Monseigneur que pour entourer le marquis d'Esgrignon, chacun des habitués était venu.